Je voudrais vous parler ce soir de milieu, paysage et d'écologie du regard. C'est un assemblage un peu surprenant. Ce sont pourtant trois mots du langage courant. Milieu, paysage, regard. Et trois mots voisins. Puisque, si l'on veut définir le milieu, on pourrait dire que le regard, ce que le regard nous livre du milieu où nous sommes, c'est un paysage. Le paysage n'est donc qu'une partie du milieu qui nous entoure, puisque c'est ce que nous en livre notre regard. Et ce que ce regard nous livre, c'est aussi à une certaine échelle, le milieu vu à une certaine échelle, vu avec un certain recul. En outre, avec certaines connotations. Dans le paysage, il y a la connotation de nature. Ainsi, l'objet de notre regard, ce n'est pas forcément un paysage. Cela peut être une chose quelconque, une vue quelconque, une scène quelconque. Cela nous fait donc, au plan du vocabulaire, un premier problème. Puisque, en principe, c'est toujours le même sujet regardant, le même sujet qui regarde. Et qui reste, en principe aussi, la même personne, avec les mêmes yeux et avec le même cerveau. Alors, le fait que la notion de paysage existe, elle implique que la nature du regard que le sujet porte sur son milieu, que la nature de ce regard est conditionnée par la nature du milieu. Il y a des conditions dans lesquelles mon rapport visuel à l'objet s'appelle paysage et d'autres où il s'appelle autrement. Il peut s'appeler vue, scène, spectacle, etc. Or, si ce rapport entre le sujet et le milieu change, est-ce que cela n'implique pas un changement du sujet lui-même? Nous avons un autre problème à propos du mot « milieu ». Un problème très voisin. Puisque, d'abord, le mot milieu, ce mot si vague, qui veut dire à la fois le centre et le contraire du centre, c'est-à-dire l'environnement, ce qu'il y a autour. Je m'interromps de temps en temps pour laisser la traduction. L'existence d'un mot comme milieu suppose en effet un rapport étroit entre ce qu'il y a au centre et ce qu'il y a dans l'environnement, autour. Alors, ce qu'il y a au centre, je poserai que c'est le sujet, un sujet quelconque. Et ce qu'il y a autour de ce centre, autour de ce sujet, je poserai que ce sont les objets qui forment l'environnement de ce sujet. La question sera donc de définir le rapport qu'il y a entre les deux, entre le centre et l'environnement, entre le sujet et l'objet. Mais quittons maintenant le plan du vocabulaire pour un plan plus général. Je voudrais dégager les implications de ce double problème. Le problème est double puisque nous pouvons le focaliser d'une part sur le centre, c'est-à-dire le milieu comme ensemble de rapports subjectifs, ou au contraire, nous pouvons le focaliser le problème, nous pouvons le focaliser sur l'environnement, c'est-à-dire sur un ensemble de rapports objectifs. Avec, en filigrane, un doute fondamental. Est-ce que nous sommes véritablement fondés à bipolariser de la sorte le problème? Est-ce que nous avons le droit de poser le milieu en termes dualistes, de cette façon, la question du milieu en termes dualistes? Ou alors, est-ce que nous devons essayer de définir une problématique qui dépasse cette binarité, qui dépasse la dualité sujet-objet? Mon exposé sera structuré en trois parties. La première partie se situera dans les limites de cette binarité sujet-objet. Dans une seconde partie, d'abord, je centrerai la question sur le sujet, ensuite, troisièmement, je chercherai à dépasser cette dualité. Donc, d'abord, en se restreignant au problème posé en termes de dualité sujet-objet. Il va de soi que cette distinction est le fondement même de la science moderne, de la connaissance moderne, puisque l'expérience scientifique porte sur des faits qui sont strictement découplés, détachés de l'observateur. Ils sont objectivés. C'est le point de vue qu'on appelle positiviste. Et c'est donc dans le contexte de ce positivisme, donc sans remonter aux ancêtres de la question du milieu, les ancêtres de la question du milieu, ça remonte très très loin, mais dans l'histoire de la pensée française moderne, les grands ancêtres sont Bodin, Jean Bodin et Montesquieu. Je ne remonterai donc pas jusqu'à ces grands ancêtres. Je me situerai dans le contexte du positivisme qui se développe à partir du 19e siècle. Le premier, sans doute, qui a posé la question du milieu en termes scientifiques, c'est un médecin qui était aussi démographe, s'appelait Bertillon, Louis-Adolphe Bertillon, qui est né en 1821 et mort en 1883. Il n'est plus très connu aujourd'hui. Ce médecin démographe a créé le terme mésologie ou science du milieu. Et il définissait cette mésologie comme l'étude des réactions réciproques de l'organisme et du milieu dans lequel il vit. Par milieu, par le terme milieu, Bertillon, je crois que je ne vous ai pas dit son prénom, il s'appelait Louis-Adolphe. Bertillon n'entendait pas seulement les agents extérieurs physiques. Il entendait aussi ce qu'aujourd'hui nous appellerions la culture, c'est-à-dire les rapports sociaux, l'éducation, les lois, les mœurs, etc., qui sont donc conditionnants, qui conditionnent l'organisme. Conditionne le sujet. Pour Bertillon, ces conditionnements, qu'on pourrait dire culturels, sont eux-mêmes, dans une certaine mesure, conditionnés par le milieu physique. Donc il y a un double conditionnement. Ainsi, la question de la mésologie humaine, comme disait Bertillon, cette question est extrêmement complexe. Ce terme de mésologie, qui est potentiellement très riche, a aujourd'hui disparu de notre vocabulaire. On le trouve dans les grandes encyclopédies, mais personne ne parle plus de mésologie aujourd'hui. C'est d'ailleurs très amusant de voir le sort que les grandes encyclopédies Larousse ont fait au terme mésologie au fur et à mesure de leurs éditions. D'abord un très long développement, puis de plus en plus court. Cette disparition de ce terme mésologie traduit l'échec du projet scientifique de Bertillon. Échec de ce projet parce que, d'une part, la mésologie s'est restreinte, elle s'est transformée en écologie, d'un côté. Et d'un autre côté, la mésologie, ou du moins le projet scientifique de la mésologie, s'est complètement fourvoyé dans les théories du déterminisme géographique. Le premier aspect, l'écologie. Donc, le terme, vous le savez, le terme écologie a été créé par un biologiste allemand qui s'appelait Haeckel et qui est né un peu après, je crois une dizaine d'années après. Oui, il est né en 1834 et mort en 1919, donc un peu postérieur à Bertillon. Ce biologiste a donc créé le terme écologie. Et l'écologie n'a hérité qu'une partie du projet scientifique de la mésologie, puisque l'écologie ne prend en compte que les aspects physiques du milieu. Vous savez peut-être qu'il y a eu des emplois métaphoriques du terme écologie, par exemple, dans les années d'entre-deux-guerres, il y a l'écologie urbaine avec l'école de Chicago. Mais c'est un emploi qui est très discutable. Je ne le prends pas en compte aujourd'hui. De ce fait, du fait qu'elle prend en compte les éléments physiques du milieu, l'écologie se range du côté des sciences de la nature, des sciences exactes. Quant au déterminisme, il s'est discrédité par des analogies si grossières entre la nature et la culture qu'il a été rejeté, en général, qu'il a été rejeté aussi bien par les sciences de la nature que par celles de la culture, les sciences de l'homme et de la société. Et pourtant, il existe toujours, il perdure. Il perdure et il ignore superbement aussi bien les protocoles des sciences de la nature que les scrupules des sciences de la culture. Pour cette raison, je l'appellerai ce soir le déterminisme crasse. C'est un adjectif crasse peut faire sourire, vous savez que ça veut dire épais, mais bien sûr il y a des connotations très péjoratives. Alors, ce déterminisme crasse possède une double caractéristique. D'abord, il veut expliquer la culture par la nature. Deuxième caractéristique, il dévoie la causalité objective en analogie subjective. Il commet cette déviation pour sauter le pas entre sciences de la nature et sciences de la culture. Vous savez qu'un des plus fameux déterministes a été l'écrivain et philosophe Hippolyte Taine. Je vous rappelle ses dates de naissance et de mort, c'est 1828-1893. Hippolyte Taine, qui a eu une œuvre très prolifique, a mis au point une théorie qui était très déterministe, la théorie de la race, du milieu et du moment. Par milieu, c'était le milieu au sens plutôt physique, c'est-à-dire le sol et le climat. Par exemple, dans le voyage aux Pyrénées, qui doit dater de 1850 par là, on voit apparaître déjà cette théorie. Puis les essais littéraires de Taine, sa grande thèse qui portait sur La Fontaine, déjà laissait pressentir cette théorie, qu'il a développée par la suite en faisant de grandes fresques centrées sur tel ou tel pays, par exemple sur la littérature anglaise, sur les arts en Italie, en Grèce, etc. Et son œuvre a culminé par une grande étude sur les origines de la France moderne, qui portait sur la Révolution française. Alors, dans la théorie de Taine, les facteurs que j'ai signalés tout à l'heure, c'est-à-dire la race, le milieu et le moment, sont censés rendre compte aussi bien du génie individuel d'un artiste, comme La Fontaine, que du génie collectif d'un pays, comme l'Angleterre, la Grèce, etc. Ou bien de faits collectifs, comme la Révolution française. Ce qui aujourd'hui paraît très aventureux, au moins. Mais Taine, bien sûr, avait l'excuse de vivre au temps du scientisme triomphant. À cette époque-là, aussi bien la géographie que la sociologie et l'anthropologie étaient encore dans l'enfance. Mais après lui, le déterminisme crasse a continué de produire des œuvres importantes. Par exemple, en 1915, un essai dû à un géographe américain qui s'appelait Huntington, Ellsworth Huntington. Civilisation et climat. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, le titre anglais c'est Civilization and Climate. Ça a peut-être été traduit en japonais, je ne sais pas. C'est une thèse qui explique le degré d'avancement des sociétés par la salubrité du climat. Et qui est, si on la lit aujourd'hui, qui est caricaturale. Parce que Huntington aboutit, comme c'est un géographe, le livre est émaillé de cartes. Il compare directement, par exemple, le degré d'avancement économique. Aujourd'hui, on dirait le BNP à cette époque-là. Le PNB, à cette époque-là, bon, il n'y avait pas de... La notion n'était pas vraiment mise au point. Enfin, ce qui correspond, si vous voulez, il y a des cartes de revenus et des cartes qui représentent les températures, les isothermes. Il fait un parallèle entre les deux. Bon. Même à l'époque, cette théorie a été critiquée comme simpliste par beaucoup de géographes. Elle était de plus en plus critiquée, si bien qu'elle est aujourd'hui complètement oubliée, si ce n'est au titre de l'histoire des idées. Parce que, bien sûr, les sciences sociales, les sciences humaines qui se sont développées depuis, nous ont appris à accorder beaucoup plus d'importance à la dynamique interne, intrinsèque des civilisations et des sociétés, des cultures. Malgré cela, malgré ce développement des sciences sociales et humaines, le déterminisme crasse continue à se maintenir aussi bien dans la littérature académique que dans les idées courantes. Pour la littérature académique ou para-académique, je citerai l'exemple d'un ouvrage japonais, on pourrait en citer beaucoup d'autres pays, mais un bon exemple est l'ouvrage de Suzuki Hideo, qui a paru il y a 5-6 ans, intitulé « Pensée forestière, pensée désertique ». Le titre japonais, c'est « Shinrin no Shiko, Sabaku no Shiko ». Pensée de la forêt, pensée du désert. Alors, un livre comme celui-là, malgré la mise en jeu de données scientifiques modernes, comme celle de l'hématologie, en reste au niveau de la problématique, au niveau de thème. Pas d'évolution, c'est la magnifique insouciance du déterminisme qui se maintient. Bien sûr, le déterminisme n'est pas toujours suffisamment épais, suffisamment crasse pour ignorer totalement la relativisation qu'introduit le regard du sujet dans le rapport de la culture à la nature. Mais il cherchera à rendre compte de ce regard en termes de science de la nature, c'est-à-dire en ignorant la moitié du problème. C'est ce qu'on peut voir dans le livre de l'écologue, le célèbre écologue René Dubos, dans son livre « A God Within », qui a été traduit en français. Il est français, il l'a écrit en anglais, ça a été traduit en français sous le titre « Un dieu intérieur », je crois. Et en japonais aussi, sous le titre « Utina le Kami ». Ou bien un livre d'un géographe anglais qui s'appelle Jay Appleton, « The Experience of Landscape », l'expérience du paysage. Pour ces deux auteurs, ce sont des schèmes comportementaux issus du plus lointain passé de l'humanité qui expliqueraient nos goûts en matière de paysage. Selon Dubos, le paysage arcadien qui est le paradigme du bel environnement dans la peinture européenne classique, ce paysage arcadien, il ne ferait que répéter le paysage de la savane africaine où seraient apparus les premiers hominidés. Donc, ce serait une transposition. Et selon Appleton, qui lui s'inspire directement de l'éthologue Conrad Lorenz, c'est le couple éthologique du prospect et du refuge. Le prospect, vous savez, c'est la vue qu'on a devant soi. Et du refuge, qui se traduirait dans notre esthétique, notamment dans l'esthétique des jardins. Alors, dans les deux cas, c'est une simple analogie. Dans le cas de Dubos, c'est une analogie entre écologie et esthétique. Et dans le cas de Appleton, c'est une analogie entre éthologie et esthétique. Donc, une simple analogie qui tient lieu d'analyse de l'esthétique. L'analyse de l'esthétique devrait être faite en termes pertinents à l'esthétique, c'est-à-dire en termes de représentation et d'histoire des représentations. Ce point de vue positiviste qu'illustre péjorativement le déterminisme aboutit à des impasses. D'abord, bien sûr, les dangers du positivisme sont clairs, puisque du point de vue scientifique, le danger, c'est de confondre analogie et causalité, donc de produire des connaissances fausses. Il y a un autre danger, c'est que du point de vue moral, le positivisme, dévoyé en déterminisme, oublie l'histoire. Il oublie les leçons de l'histoire. Ainsi, il ouvre la porte aux pires déviations. Aussi, le courant dominant dans les sciences actuelles, aussi bien les sciences de la nature que les sciences de la culture, évite-t-il soigneusement de verser dans l'analogie. et on l'évite si soigneusement que de nombreux auteurs en viennent à refuser même d'envisager qu'il puisse y avoir une influence de la nature sur la culture. On établit une coupure. Et de ce fait, on s'expose à un autre danger, un danger que dénonce par exemple l'éthologue allemand Irenaeus Eibl-Eibsfeld, c'est le danger du culturalisme, c'est-à-dire que à trop nier qu'il y ait une nature dans l'homme, on risque de tomber dans un culturalisme qui exclut toute possibilité de communion entre les hommes qui appartiennent à des cultures différentes. Le fait est cependant que si l'on s'en tient aux données de l'histoire et de la géographie, il est très difficile d'établir un lien entre qui aille de la nature vers la culture. Toute l'œuvre du géographe Pierre Gouroux, par exemple, et notamment son dernier livre, Terre de bonne espérance, toute son œuvre tend à prouver que les faits de civilisation connaissent une évolution propre, c'est-à-dire qui n'est pas déterminée par les conditions naturelles. Bien sûr, les civilisations tiennent compte du milieu physique, mais elles le font selon des modalités qui leur sont propres, intrinsèques, qui ne sont pas déterminées par ce milieu. Au plan où elle se place, la théorie de Pierre Gouroux est inattaquable. C'est le plan des faits matériels objectifs. Le problème, c'est que cette façon de voir sous-estime, ou bien même néglige carrément, les aspects immatériels de la relation entre l'homme et son milieu. Or, le milieu n'est pas seulement agi matériellement, il est aussi perçu et conçu. Et il n'est pas dit que les représentations que l'homme se fait de son milieu soient aussi indépendantes en apparence, enfin que le sont en apparence les techniques qu'il lui applique. C'est ce problème que pose Claude Lévi-Strauss dans son avant-dernier livre, Le regard éloigné, particulièrement dans un chapitre qui s'intitule Structuralisme et écologie. La conclusion de Lévi-Strauss dans ce livre est que le milieu naturel, c'est-à-dire l'écologie, d'une part, et d'autre part, les représentations culturelles de ce milieu, c'est-à-dire la mythologie, d'autre part, sont indépendants. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux déterminismes qui sont, dit Lévi-Strauss, arbitraires l'un par rapport à l'autre. Ils jouent indépendamment. Et pourtant, Lévi-Strauss, fidèle au postulat qui fonde son œuvre théorique, reconnaît que les règles qui président à la transformation de la mythologie d'une part, de l'écologie d'autre part, c'est-à-dire la mythologie, l'esprit, les règles qui président à la transformation des mythes sont de même nature que les règles dont procède l'organisation de la matière. Et il va même plus loin, il va jusqu'à supposer qu'à l'origine, les mythes étaient en relation plus directe avec le milieu écologique. Mais cette relation plus directe, cette articulation, son raisonnement la laisse dans l'ombre. Donc il y a une sorte d'écartèlement entre le niveau cosmologique. À ce niveau-là, il y a identité de principe entre l'esprit et la matière, d'une part. Et d'autre part, le niveau historique, où le milieu naturel et les représentations culturelles sont indépendants. Alors, entre ces deux niveaux, il y a un vide théorique. Et c'est, bien sûr, c'est là justement que porte l'interrogation de la mésologie. Je prendrai un dernier exemple des impasses auxquelles aboutit le positivisme dans ce domaine, dans le domaine du le problème du milieu. Je prendrai comme exemple le livre de Kalaki Junzo, Nihonjin no Kokoro no Lexi, c'est-à-dire Histoire de la sensibilité japonaise. Dans ce livre, Kalaki Junzo interprète le sentiment de la nature des Japonais en montrant, d'un point de vue qui est exemplairement critique, que ce sentiment s'explique largement en termes d'histoire, l'histoire des représentations. c'est-à-dire que les Japonais aiment la nature parce que leur tradition leur enseigne à l'aimer. Et il montre très bien comment s'est constituée cette tradition. Mais dans l'analyse des origines de cette tradition, dans l'analyse du rapport de cette tradition avec le milieu naturel, le raisonnement de Karaki devient circulaire. C'est-à-dire, si je résume en caricature un peu, ce serait au fond parce que la nature au Japon est remarquablement digne d'amour que les ancêtres des Japonais l'ont remarquablement aimée et qu'ils ont créé une culture qui a enseigné à leurs descendants à aimer la nature. Alors, la circularité de ce raisonnement montre qu'il est nécessaire de s'interroger systématiquement sur l'autre terme du regard qui porte sur l'environnement, c'est-à-dire sur le sujet lui-même, et de s'interroger sur le conditionnement auquel le regard de ce sujet soumet son objet. Ce conditionnement de l'objet par le regard du sujet, c'est une réalité historique. Pour prendre l'exemple du mot paysage lui-même, le mot paysage dans les langues européennes apparaît au XVIe siècle, c'est-à-dire qu'il suit de près l'invention de la perspective dite moderne et précède de peu le cogito cartésien. C'est-à-dire que c'est une manifestation, cette apparition du mot paysage, c'est une manifestation, parmi d'autres, de l'émergence du sujet individualiste moderne. Et un exemple de la distanciation à laquelle ce sujet va soumettre son environnement, c'est-à-dire l'abstraction réciproque du sujet et de l'objet. Vous savez, en termes un peu philosophiques, quand Descartes parle du moi pensant, du me cogitante, ce moi cogitant toise les choses, il les regarde comme ça, il les réduit à son propre regard, c'est intuitus. C'est tout à fait typique, tout à fait exemplaire de cet éloignement, cette distanciation. Bien sûr, le dit sujet, regardant, n'est pas seul au monde. Les sciences de la société nous montrent que le regard du sujet traduit des représentations collectives. L'esthéticien Alain Roger, par exemple, dans un livre très, très intéressant qui s'appelle « Nus et paysages, essai sur les fonctions de l'art » qui est paru en 1978, je crois. Dans ce livre, Alain Roger analyse et souligne le rôle de la schématisation par laquelle ces représentations créent littéralement ce que nous percevons du milieu, c'est-à-dire un paysage. Il dit que si nous voyons du paysage, au lieu de voir du simple pays, une simple étendue de pays, c'est que nous avons imprimé en nous des schèmes de perception qui sont de véritables matrices de paysage. Et ce sont ces schèmes qui créent du paysage. Désormais, donc, l'interrogation porte non plus sur l'environnement comme objet de notre regard, puisque cet objet, littéralement, n'existe à nos yeux que dans la mesure où nous le schématisons. Où nous l'artialisons, comme dit Roger, c'est artialiser, c'est-à-dire, quand il parle de l'artialisation de la nature, c'est-à-dire la nature n'existe que dans la mesure où l'homme, en vertu de ses chaînes, la transforme en art, en paysage. Alors, l'interrogation porte sur les mécanismes de cette structuration de la réalité, structuration de la réalité par notre imaginaire. Cette voie de recherche se nourrit de l'héritage de Bachelard, notamment, et puis de plus loin de celui de Carl Jung, et plus près de nous, de l'œuvre de Gilbert Durand, entre autres. Et dans cette voie de recherche, certains auteurs en arrivent à rejeter radicalement la réalité de l'objet, et ils ne retiennent que celle du sujet. Pour cette raison, je l'appellerai cette tendance l'imaginarisme aérien, parce qu'il flotte en l'air. Et cette tendance me paraît bien illustrée par un auteur comme Jean-Jacques Wunnenburger. Lui prend radicalement le contre-pied du positivisme. Et il affirme carrément que la nature n'est rien d'autre qu'une représentation du sujet. C'est une représentation que se fait le sujet. Dans l'écologie symbolique pour laquelle plaide Jean-Jacques Wunnenburger, la question du milieu ne se pose même plus, puisque le milieu est tout entier dans l'homme. C'est une construction de notre esprit, et notre esprit plane seul et complètement inaccessible à toute détermination que pourrait exercer notre environnement matériel. Il est sans doute d'autres solutions que de subsumer, comme disent les philosophes, ou bien d'envelopper, d'inclure, subordonner, de subsumer totalement l'objectif sous le subjectif, comme le fait l'imaginarisme, ou bien au contraire, le subjectif sous l'objectif, comme le fait le déterminisme. Et beaucoup d'auteurs contemporains qui répudient ces excès symétriques cherchent à dépasser la contradiction du subjectif et de l'objectif. Cette contradiction, cette alternative sans issue où le positivisme laisse la question du milieu en distinguant irrévocablement le sujet de l'objet. Je voudrais vous donner 5 exemples de ces tentatives de dépassement avant de proposer une interprétation personnelle du problème. Le premier exemple, c'est celui de l'œuvre de Michel Dufresne, l'esthéticien Michel Dufresne, et plus particulièrement d'un livre qu'il a écrit en 1981, « L'inventaire des a priori, recherche de l'originaire ». Dans ce livre, Michel Dufresne s'interroge sur la faculté que l'homme a de retrouver la spontanéité de la nature au-delà ou bien en deçà des habitus que lui impose la culture. C'est-à-dire la faculté d'éprouver la présence des choses au-delà de leur représentation, leur représentation qui est instituée par la société. Cette intimité avec l'objet, c'est le propre de l'expérience esthétique véritable. Et elle n'est possible, dit Michel Dufresne, que parce qu'il y a, au fond de la culture elle-même, une contre-culture. Une contre-culture qui est plus originaire que les normes, les règles, les normes arbitraires d'une société donnée. Cette contre-culture, que d'autres auteurs comme Anne Coquelin appellent la grande mémoire, elle est faite d'a priori. Des a priori par lesquels la culture retrouve l'humain universel, c'est-à-dire la nature. Et ces a priori, nous les éprouvons dans le sens des choses. Alors par sens, Dufresne entend quelque chose de plus profond que la signification. Parce que le sens, lui, est immanent à l'objet, il est immanent au sensible. Dans cette expérience du sens coïncident deux sortes d'a priori, c'est les a priori subjectifs, qui sont à la fois individuels et culturels, et les a priori objectifs, qui sont eux qui habitent l'objet. Par exemple, un paysage, ce que nous dit un paysage, nous ne l'éprouvons pas seulement en décodant des signes. On ne lit pas un paysage, on l'éprouve globalement et immédiatement. Et cela grâce aux a priori par lesquels nous faisons partie de ce paysage. Le deuxième exemple, je l'emprunterai à un physicien, Bernard d'Espagna, plus particulièrement à son livre « À la recherche du réel, le regard d'un physicien » qui est paru en 1979. Dans ce livre, Bernard d'Espagna, qui est spécialiste de la théorie quantique, donc c'est sur les bases de la théorie quantique, il montre que nous ne pouvons pas parler de la réalité en soi, puisque le réel n'émerge pour nous dans l'actuel, à partir du potentiel, que dans la mesure où il est mis en relation à notre propre regard, c'est-à-dire donc conditionné par notre regard. Par conséquent, ce qu'on pourrait appeler l'objectivité, enfin ce que Despagne appelle l'objectivité forte, c'est-à-dire où la réalité serait totalement indépendante de l'observateur, cette objectivité forte est impossible dans notre cadre mental et physique. Ce qui est possible, ce qui seul est possible, c'est ce qu'il appelle l'objectivité faible. Dans l'objectivité faible, bien sûr, c'est la base de la science. L'objet est découplé de l'observateur individuel. Il est invariant par rapport à un changement d'observateur individuel. Mais il dépend néanmoins de sa relation avec la communauté des observateurs humains. Et le réel n'est connaissable qu'à travers le voile, la déformation, qu'à travers le voile que lui impose cette mise en relation. C'est-à-dire que le réel n'est connaissable que dans les limites de l'objectivité faible. Et cette objectivité faible, Bernard Despagne la rapproche de la notion de intersubjectivité. Le troisième exemple, je l'emprunterai à un psychologue américain spécialiste de la psychologie de la perception visuelle. C'est James Gibson. Plus particulièrement à son livre, paru en 1979, « The Ecological Approach to Visual Perception », c'est-à-dire l'approche écologique de la perception visuelle. Dans ce livre, Gibson définit la notion de « affordance », affordance, qui est un mot forgé à partir du verbe « afford », qui veut dire, comme vous le savez, à la fois « fournir » et « pouvoir ». Alors, affordance, s'applique à la fois à l'objet, c'est-à-dire c'est ce que l'objet comporte ou présente, et au sujet, c'est ce que le sujet peut faire de l'objet. Pour cette raison, je le traduis par prise, une prise. Le réel nous offre des prises, mais en même temps nous avons prise sur le réel. Ces prises, ou affordances, transcendent l'objectif et le subjectif. Elles les dépassent l'un et l'autre. Elles ne sont donc ni proprement physiques, ni proprement phénoménales. Et selon Gibson, elles relèvent de l'écologique. Le point de vue écologique, bien sûr, prend ses origines dans la psychologie de la forme, la Gestalt. Et la notion de affordance, par exemple, a pour ancêtre la notion dont parlait le psychologue gestaltiste Kurt Lewin de Affordungscharakter, c'est-à-dire à peu près le même mot en allemand et en anglais, Affordungscharakter, c'est l'invite, c'est ce que nous demande de faire, qui a été traduit par la suite en anglais et en français par valence, une valence. Mais la notion d'affordance ou de prise constitue un changement décisif par rapport à la notion de valence. En effet, les prises écologiques ne dépendent pas uniquement du point de vue du sujet, parce que ce sont aussi les affordances sont aussi des invariants qui sont inhérents à l'objet. Donc, on ne peut pas les penser, elles sont impensables si l'on n'essaie pas justement de dépasser la scission du sujet et de l'objet. Le quatrième exemple, je l'emprunte à un sociologue, Michel Augoyard, Jean-François Augoyard, excusez-moi, à son livre plus particulièrement, un livre paru en 1979, « Pas à pas, essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain ». qui est une étude sur un quartier neuf de Grenoble, un quartier qui s'appelle l'Arlequin. Et dans cette étude, Jean-François Goyard s'interroge sur la façon dont les habitants de l'Arlequin perçoivent leur quartier. D'un point de vue qui fait appel de très près à des termes de linguistique, de rhétorique. Je vous livre simplement les conclusions. Dans la perception que les habitants ont de leur quartier, Ogoyard décèle une logique ternaire. Une logique ternaire qu'il appelle la logique de l'habiter, habiter ER. Alors, cette logique de l'habiter diffère fondamentalement de la logique des aménageurs. Les aménageurs, eux, scindent la réalité toujours en deux. Ils distinguent irrévocablement, enfin, Goyard développe bien sûr cela, je résume, ils scindent la réalité en distinguant irrévocablement cause et effet, contenant, contenu, etc., etc. Or, dans l'ordre de l'habité, dans cet ordre ternaire, il y a ce que Goyard appelle la triade de l'expression. L'exprimant et l'exprimé qui se conjoignent dans l'expression. C'est une notion qui, enfin pour l'expliquer, Goyard fait appel en particulier à la notion de complication telle que l'avait employée ou définie la philosophie de la Renaissance, particulièrement Nicolas de Cuse, puis aussi Giordano Bruno. Pour lui, Goyard, l'expression habitante se fonde sur cet ordre ternaire, un ordre qui dépasse à la fois la causalité réelle et les représentations idéales. C'est la jonction des deux, leur dépassement. Donc c'est à la fois la jonction et le dépassement de l'objectif et du subjectif. Un cinquième exemple sera celui de la notion de sens commun ou sensus communis, telle que l'analyse un philosophe japonais, Nakamura Yuzuro, notamment dans un ouvrage récent sur un autre philosophe, Nishida Kitaro, puis d'autres livres aussi de Nakamura Yuzuro, mais plus particulièrement celui-là. Dans ce livre, Nakamura cherche à développer les implications de la notion de basho, basho, c'est-à-dire le lieu, ou plutôt le champ. Il montre que Nishida Kitaro employait ce terme dans un sens voisin de celui de bamen, bamen qu'on peut traduire par champ justement, qu'employait au même moment, à peu près au même moment que Nishida, un linguiste, Tokieda Motoki. Alors cette notion de champ suggère une logique qui ne serait plus fondée sur le sujet, sur l'identité du sujet. Alors là, il montre que c'est le principe de toute la philosophie occidentale à partir d'Aristote, mais ce serait une logique qui serait fondée sur le prédicat, c'est-à-dire ce qu'on dit du sujet. Alors, une telle logique dépasserait la scission de l'objet et du sujet. Et d'ailleurs, explicitement, Tokieda définissait le bamen comme un plan où fusionne le sujet et l'objet. Nishida disait aussi antérieur à la séparation du sujet et de l'objet. Et c'est là, selon Nishida, d'après Nakamura, c'est là que, c'est-à-dire au plan du prédicat, que se réalise l'identité du soi. Ces diverses définitions, comme ça livrées par mail, elles sont très, très abstruses. Elles tiennent directement. Elles sont directement influencées par les propriétés de la langue japonaise. Où, comme vous le savez, il est beaucoup moins nécessaire de distinguer le sujet que dans les langues indo-européennes. Donc, les penseurs japonais comme Nakamura Yuzuro ou bien Sakabe Megumi, qui est ici aujourd'hui, sur la base de leur culture et de leur langue, sont particulièrement fondés à rechercher comment fonctionne l'intersubjectivité. C'est-à-dire ce qui dépasse le point de vue du sujet individuel. Ils sont donc particulièrement fondés à chercher comment fonctionne le sens commun, collectif, et au-delà même du sens commun, comment fonctionne la communication entre l'homme et les choses, entre l'homme et les choses qui sont à l'intérieur d'un milieu donné. Je voudrais brièvement proposer une interprétation personnelle de la question. Il serait faux, c'est l'impression que je vous aurais donnée, mais il serait faux de prétendre que tous les penseurs que je viens très sommairement de citer avaient en tête une problématique du milieu en tant que telle, c'est-à-dire une problématique qui implique à la fois le social et l'écologique. Cette problématique, c'est une problématique géographique, c'est plus particulièrement la mienne. Comme je l'ai souligné au début de l'exposé, il ne s'est pas constitué de science du milieu au sens global qu'appelait la notion de mésologie de Bertillon. Parce que les sciences qui traitent du milieu, et au premier chef donc la géographie, ont reculé devant l'implication essentielle de la notion de milieu, c'est-à-dire de dépasser la dualité de l'objectif et du subjectif, de dépasser la dichotomie entre, d'une part, le regard sur le paysage et, d'autre part, le paysage regardé. Par conséquent, ce n'est pas dans les sciences du milieu qu'il faut rechercher les plus remarquables essais de dépassement de cette dichotomie, mais dans des disciplines voisines, notamment la philosophie, bien sûr. Vous aurez d'autre part remarqué l'hétérogénéité des concepts que chacun des auteurs que je viens de citer propose pour exprimer ce dépassement, alors que, d'autre part, tous font appel aux mêmes notions de sujet, objet, objectivité, subjectivité, etc. Donc ce qu'on pourrait attendre d'une géographie qui reprenne l'essai de Bertillon, c'est-à-dire qui reprenne la notion de mésologie, au plein sens du terme, ce serait de proposer un concept qui exprime ce dépassement. De proposer un concept qui rende compte de la complication, ici je renvoie aux termes tels que l'employait Augoyard et avant lui Nicolas de Cuse, qui rend compte de la complication de l'objectif et du subjectif. Cette complication qui est inhérente à chacun des milieux, c'est-à-dire un milieu naturel et culturel à la fois, indissolublement, chacun des milieux que porte la surface de la Terre. En effet, le milieu n'existe ni seulement dans les objets qui s'y trouvent, ni seulement dans les représentations que s'en font les sociétés et les individus qui peuplent le milieu, qui habitent le milieu. Le milieu existe avant tout, et je dirais même qu'il existe uniquement dans la relation sensible qui s'établit entre l'un et l'autre des deux pôles, c'est-à-dire le pôle objectif, le pôle subjectif, lesquels en fait sont purement théoriques. Donc il faudrait trouver un terme pour rendre compte de cette relation. J'ai proposé de l'appeler trajet, plus spécifiquement dans ce cas présent, dans le trajet de paysage. C'est la notion de trajet, elle est influencée par des notions qu'ont mises au point des auteurs comme Piaget, par exemple, ou bien Gilbert Durand. Piaget, quand il parle de genèse réciproque, de l'objectif et du subjectif, du point de vue de l'épistémologie génétique, donc cette notion de genèse réciproque. Ou bien Gilbert Durand, quand il parle de cheminement réversible, toujours entre le subjectif et l'objectif, cheminement réversible, et il dit même aussi trajet anthropologique. Donc, c'est en reprenant ces notions que j'emploie le terme de trajet. Ce n'est pas la seule raison, c'est aussi que, naturellement, le terme de trajet répond de manière très simple et sensible au terme de sujet et d'objet. Et à partir de cette souche lexicale, trajet, on peut très facilement parler comme subjectif, on formera trajectif, subjectivité, trajectivité, etc. etc. On peut faire tout. Trajet, trajectif, trajectivement, trajectivité, etc. Et vous avez dedans, dans trajet, vous avez le radical trans, qui exprime bien le dépassement, l'idée de dépassement. Une autre raison pour laquelle je parlerai de trajet, c'est que cela connote avec évidence la réalité concrète de l'étendue qui est d'abord l'échelle du milieu au sens géographique. Le paysage au sens géographique, il se présente à une échelle qui implique un mouvement, un trajet. C'est l'échelle du paysage. Ainsi, la réalité du milieu n'est ni objective ni subjective. Elle est entre les deux, ou elle est au-delà des deux. Elle est trajective. Et c'est par le trajet de son propre regard que la société fait un regard au sens général, c'est-à-dire en fait le sens qu'éprouve le sujet collectif ou individuel. C'est par le trajet de son propre regard que la société fait l'expérience de son milieu et qu'elle peut donc être influencée par cette expérience, qu'elle peut donc être influencée par la nature. Mais bien sûr, quand on dit influencée, ça n'est pas au sens du déterminisme qui ne voit que la moitié du problème, c'est influencer trajectivement. C'est-à-dire dans des termes qui ne sont ni ceux de la causalité objective, ni ceux de la métaphore subjective, mais ceux des termes des pratiques où ces deux opérations fusionnent, c'est-à-dire où fusionnent la causalité et la métaphore. On ne peut pas dire que ça soit purement subjectif, puisque le regard d'une société ou d'un individu sur son environnement, le paysage, est dans une certaine mesure vérifié par l'expérience du paysage, dans une certaine mesure. Donc elle n'est pas totalement subjective. Elle est vérifiée, mais elle n'est jamais totalement vérifiée, ni vérifiable, bien sûr. Donc elle n'est pas non plus totalement objective. Elle est vraiment autre chose. Et il faut arriver à concevoir cette autre chose. C'est comme si on disait, oui, mais est-ce qu'il ne suffit pas de composer objectif et subjectif pour rendre compte du problème ? Non, ça ne suffit pas. Pour la même raison, il ne suffit pas de composer du bleu et du jaune pour rendre compte de la verdure, hein, le vert qui est entre les deux. C'est quelque chose en soi. Mais c'est pourtant composé de l'un et de l'autre. Alors, c'est à travers le prisme de ces pratiques, le prisme trajectif de ces pratiques, que la société perçoit, conçoit, agit son environnement. Et c'est à travers ce prisme que l'environnement retentit sur la société, c'est-à-dire que la nature irrigue la culture, que la culture se rattache à la nature. Cela demande donc que on arrive à bâtir une théorie de la trajectivité pour arriver à rendre compte du milieu, arriver à penser le milieu, arriver à penser ce qui fait le territoire des hommes, arriver à penser véritablement le rapport de la société à l'espace et à la nature. On ne peut pas la penser uniquement en termes subjectifs ni objectifs. En fait, bon nombre d'écrits géographiques qui tiennent de la tendance phénoménologique ont posé des jalons dans cette voie. Mais ce qui reste à faire, et en cela bien sûr les géographes ne sont pas les seuls concernés, ce qui reste à faire c'est à unifier la problématique, unifier les concepts de ces différentes approches du milieu, et notamment les approches qui ont pris pour objet le paysage. Pour cela, il faut évidemment des principes communs. Il n'est bien évidemment pas question de renier l'indispensable distinction de l'objectif et du subjectif. Il ne faut pas du tout les renier, mais il faut aller au-delà. Il faut tenir compte des limitations du point de vue objectif, il faut tenir compte des illusions du point de vue subjectif. Alors, au-delà du sujet et de l'objet, on peut espérer retrouver le réel, la complication du réel, qui fait notre milieu et qui, à travers notre milieu, fait ce que nous sommes dans une certaine mesure. Je vous remercie.